France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette quatrième journée de collecte d'initiatives, nous allons dans la Manche, à Saint-Lô, à la rencontre d'un ancien confrère journaliste, désormais engagé dans le théâtre, et un théâtre d'improvisation. Ensuite, nous appellerons Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine Village, pour présenter une série de portraits d'acteurs locaux qui risquent bien de vous inspirer.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Vincent Posé, bonjour.
Bonjour Philippe.
Cher confrère, ancien journaliste à Paris, à France Info, à France Bleu ensuite, du côté de la Manche. Et puis, vous, originaire du Calvados, vous êtes installé à Saint-Lô parce que vous étiez un homme de théâtre aussi et vous avez créé votre compagnie comme une impro. C'est l'improvisation théâtre qui est votre fil conducteur.
Exactement. Le point de départ, c'est la pratique de l'improvisation théâtrale, donc des spectacles avant tout, autour du théâtre, mais surtout d'une part d'improvisation. Donc j'ai développé ça depuis 2014, ici à Saint-Lô. Et l'idée aussi, c'était de faire du théâtre, mais de trouver des déclinaisons en termes de pédagogie, en termes d'intérêt pour les entreprises, pour les scolaires, à partir justement de tout ce qu'on peut utiliser comme compétences dans le théâtre.
Oui. Et le passage de l'improvisation théâtrale au théâtre participatif que vous menez rondement est évident.
Oui, alors le théâtre participatif, en fait, c'est surtout traiter de thématiques spécifiques, d'écrire des scènes sur mesure, et ensuite de présenter ces scènes devant un public et de faire réagir le public pour que le public trouve des solutions pour sensibiliser, pour aussi donner des références ou donner des personnes référentes ou des structures référentes sur certaines thématiques. On parle beaucoup, nous, de harcèlement, que ce soit à l'école ou dans le milieu de l'entreprise. Oui. Ça peut être aussi trouver des référents ou des conseils sur l'ergonomie, sur la santé mentale, enfin voilà, sur tous les sujets qu'on peut traiter dans ce type de théâtre participatif. En fait, c'est ça. C'est vraiment échanger, partager et orienter si on est confronté à ce genre de problème.
Et en fonction du thème, à chaque fois, donc il y a un groupe de co-écriture avec vous.
Alors c'est mon mode de fonctionnement que je préfère. C'est pas tous les projets, mais c'est une grande majorité des projets qui se déroulent comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend des groupes pour écrire avec nous les scènes, pour que ce soit vraiment ancré dans le réel et dans une vérité, pour que ça parle vraiment au plus grand nombre. Et puis ensuite, les personnes qui écrivent avec nous, si elles en ont envie, peuvent jouer des rôles aussi sur scène, donc aussi s'impliquer et être quelque part ambassadeur de ces projets-là auprès de leur communauté.
Alors vous intervenez dans différents secteurs, donc on a expliqué le milieu scolaire avec les thématiques que vous annonciez tout à l'heure précédemment, et aussi le secteur de la santé et du social avec des professionnels du social sur des thèmes évidemment nombreux, et puis aussi en entreprise. Le harcèlement au travail dont vous parliez, l'ergonomie. Et là, vous venez d'ouvrir un lieu, le studio d'expression.
Oui, le studio d'expression, c'est à Saint-Lô. Je viens de l'ouvrir. Alors, pour l'instant, on est encore avec les contraintes sanitaires. Malheureusement, oui, on peut pas encore accueillir de public. Mais néanmoins, c'est un investissement sur le long terme, puisque c'est vraiment un lieu qui permet d'accueillir des groupes, alors que ce soit des entreprises, que ce soit des scolaires, que ce soit, qui veut en fait, travailler sur l'expression, qu'elle soit orale, corporelle, sur l'improvisation, créer des spectacles. Mmh. J'aimerais accompagner aussi des artistes autour du slam, autour de petites formes théâtrales, de l'expression au sens large. Donc ce lieu, il est dédié à ça. Et c'est un lieu polyvalent, avec vraiment de quoi travailler, avec un studio radio. Et oui, on ne se fait pas. Voilà.
La radio, c'est une bonne école pour faire du théâtre?
Oui, alors pour faire du théâtre, oui, sur l'expression. Et moi, dans ma manière de travailler, c'est aussi le journalisme qui m'a amené à cette forme de théâtre. Parce que l'idée, c'est de donner la parole, c'est de respecter la parole, de rendre hommage à la parole des personnes que je peux croiser. Ça va des enfants aux personnes âgées et puis tout type de public. Donc, c'est rendre la parole, rendre hommage, quelque part médiatiser la parole et faire réagir.
Alors, il y a deux spectacles qui vont reprendre la route dès que les portes seront ouvertes et dès que les choses seront plus simplifiées. Femmes fidèles à elles-mêmes, des portraits de femmes. Et puis votre spectacle, Seul en scène, Petit bout d'homme.
Oui, alors Petit bout d'homme au pluriel, c'est une collaboration avec le musicien cannais Adrien Leprêtre. On a eu la chance de terminer la résidence avant le confinement et c'est vraiment parler de la parentalité du côté du père. Comment être père aujourd'hui, comment être fils aujourd'hui, donc à partir de matières documentaires, beaucoup de choses que j'ai tournées depuis une dizaine d'années, puis qui prennent forme dans ce spectacle, puis pas mal de poésie, d'émotion. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis une dizaine d'années. Et le texte est édité et j'ai eu un soutien d'une librairie indépendante qui vient de se monter à Saint-Lô, qui s'appelle Les Racontards, qui met en vente le texte de ce spectacle.
Je lis Les Racontards. Comme une impro... .fr pour l'adresse. Le studio d'expression est 65 rue de Villedieu à Saint-Lô. Notez bien l'adresse. Merci Vincent.
Merci Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Un petit mot sur Us Awake dans la chasse effrénée aux déchets plastiques qui asphyxient notre planète. Il y a une solution dont on parle en ce moment. Elle a un bon vecteur de communication, la personne de Samuel Lebihan qui est sincèrement associé à cette course contre les déchets, sa rencontre avec un humanitaire, François Danel, et un inventeur éclairé, Christopher Cost. Parmi les premières créations, il y a Chrysalis, une machine qui permet de recycler les déchets plastiques en carburant par pyrolyse, donc par combustion sans oxygène. Ça donne de l'essence, ça donne du diesel qui est utilisé, entre autres, depuis la présentation il y a 2 ans, par des camions bennes d'ordures ménagères dans les Alpes-Maritimes. Cette invention est très discrète encore, on espère qu'elle va gagner du terrain. Et ce réseau Uswake, cette société Uswake, a la prétention de devenir vraiment un incubateur d'innovation au service de la valorisation des déchets. Uswake.fr. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village, le dernier numéro de cet hiver, comporte, comme dans chaque numéro, chaque trimestre, des portraits qui sont très originaux. Je pense au resto que vous dites le plus écologique de France. Enfin, c'est sa créatrice qui le dit comme ça, à Sauveterre de Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et on le doit à Laura, qui était assistante réalisatrice cinéma à Paris et qui a décidé de se mettre à la cuisine.
Oui, c'est vrai que c'est un joli projet. Alors, en ce moment, bien sûr, avec la crise sanitaire, c'est difficile, mais à Sauveterre de Béarn, on est plutôt dans la période creuse du tourisme. Donc, pour l'instant, ils font ce qu'ils peuvent pour tenir là-bas sur Sauveterre de Béarn, sur cette nouvelle entreprise d'un resto écolo autosuffisant et écologique, qui s'appelle La Légende. Hein. C'est marrant parce que Laura, elle est partie avec 2000 euros en poche. Elle a fait un appel à financement participatif pour acheter la maison 56 000 euros, donc quand même un petit budget. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de menu tout fait. Elle s'approvisionne uniquement au jour le jour avec ce qui se fait quotidiennement auprès d'agriculteurs à proximité, dans un rayon moyen de 30 km. Oui. Et elle arrive à faire 2 litres de déchets par jour pour 50 couverts. Alors déjà, quand on est en famille, on voit ce que ça peut représenter déchets. Et là, c'est vraiment incroyable de dire on ne fait que 2 litres de déchets pour 50 couverts. Et elle sensibilise ses clients à comment on fait pour faire le moins de déchets possible. Et tout est cuit au poêle à bois, donc c'est un beau projet.
Elle a su bien choisir son village, puisque les habitants ont participé au chantier de réhabilitation de cette légende, puisque c'est le nom du resto.
Oui, c'est très ancré localement, il y a une vraie insertion du projet dans son milieu, et effectivement j'espère qu'elle passera avec succès ce cap un peu plus difficile, mais elle en profite pour mettre en place de nouveaux projets, elle continue de vendre du vin naturel à son restaurant en attendant.
Le numérique a changé la donne pour certaines personnes. Alors il y a un métier que je découvre, c'est brocanteuse numérique, donc la brocanteuse 2.0, comme vous le titrez, c'est Karen, qui est dans Haute-Vienne, à Razès, et qui a créé la petite chaise rouge.
Oui, c'est un joli nom d'ailleurs. Oui. C'est du rétro-chic féminin, comme elle se qualifie. Elle est assistante commerciale, hein, Karen. Souvent, on a des reconversions à partir d'un goût personnel. Avant, Karen, elle suivait beaucoup son père pour aller chiner, faire les puces. C'est comme ça qu'elle a eu ce goût. Et puis, à la naissance de sa fille, elle voulait plus travailler le samedi comme assistante commerciale, etc. Et elle s'est lancée dans ce projet. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la campagne, il y a de l'espace. Et il y a des pièces et il y a des bâtiments. Et sur là où elle s'est installée, il y a deux granges. Et ça lui a permis d'avoir une grange pour faire son stock, une pour la réparation, et de monter cette activité de brocanteuse à distance. Donc en fait, elle va chiner 3 jours par semaine. Après, il y a un travail de réhabilitation, de réparation, de peinture de certains meubles, de valorisation, quoi. Et la mise en ligne, notamment sur Instagram, où elle a quand même 10 000 abonnés pour vendre, et pour vendre plutôt à proximité, bien sûr, quelques grandes villes alentour. Mais en fait, elle arrive à se faire un vrai réseau pour s'approvisionner et commercialiser localement, parce qu'elle ne vend pas trop cher, et ça marche quand même bien, et c'est un joli projet, oui, qui se prête bien au milieu rural.
Et elle est partie sur un investissement de départ de 1 000 euros.
Oui, hein, et je trouve que c'est vraiment bien, parce que effectivement, on n'y pense pas, mais c'est un vrai espace de liberté, où il y a de la place, et ça se prête tout à fait à ce type de projet, et vraiment, je recommande pour ceux qui veulent des meubles ou des objets déco, c'est vrai que plutôt que d'aller acheter dans des grandes chaînes que je ne citerai pas, ça permet effectivement de faire vivre des personnes installées là, en milieu rural, et qui font revivre du bâti aussi traditionnel.
Dans un village du Beaujolais, Nadia et Camille ont créé une association L'air aéré, qui propose des ateliers aux personnes âgées du milieu rural.
Oui, ça c'est un vrai défi. Hein. Il y a un vieillissement d'une partie de la population au milieu rural, et il y a un manque de structures souvent d'accompagnement senior. C'est en tout cas ce qu'elles ont remarqué. Alors Nadia était infirmière, Camille était cadre commercial, et elles ont monté cette association pour prévenir la dépendance, pour éviter l'isolement, avec plein d'activités hein, qu'elles font, du qigong, de l'écriture, de la cuisine, et puis apprendre à garder l'équilibre pour éviter les chutes. C'est surtout un vrai lieu de lien social. Hein. Alors, c'est pas simple. Hein. Aujourd'hui, elles n'en vivent pas, même si elles ont une aide de la mutualité sociale agricole, mais ça leur permet quand même de répondre à un besoin des personnes âgées qui se retrouvent pas toutes seules, et d'éviter d'aller dans des maisons spécialisées, importantes, et de rester chez elles, en fait, à proximité. Alors, elles espèrent quand même un jour pouvoir créer leur propre maison à taille humaine, mais c'est pas encore le cas pour l'instant. Il faut arriver à pérenniser cette activité, même si elle est un petit peu soutenue par certains dispositifs. C'est compliqué, mais elles sont très très motivées.
Ouais, je signale qu'elles ont obtenu une aide du département du Rhône, mais aussi de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, c'est bien de le signaler. Je renvoie toutes les personnes qui nous écoute à un autre dossier que j'aime beaucoup. On n'aura pas le temps d'en parler, de le développer là, mais c'est les friandises pour animaux créées par Ivan et Paul à Martigné-sur-Mayenne, anciens étudiants qui se sont lancés dans leur ferme nature bio. C'est à lire aussi dans le dernier numéro du magazine Village. Merci beaucoup Sylvie.
Merci Philippe, à bientôt.
Midi 45.